Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le 31e sommet de la Ligue arabe s'ouvrira demain à Alger, le premier depuis 3 ans. Ce sommet à Alger débutera le jour de l'anniversaire du début de la guerre d'Algérie il y a 68 ans. Plus de 300 photographies, souvent inédites, sur la vie quotidienne en Algérie pendant la colonisation française, document publié par l'historien Tramor Kemener dans son ouvrage « Vivre en Algérie du 19e au 20e siècle ». Il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier, nous l'écouterons. Michel Aoun a quitté hier le palais présidentiel à la veille de la fin de son mandat de 6 ans. Faute d'accord au Parlement sur son successeur, le Liban entre dans une période de vacances du pouvoir. La victoire de Lula à la présidentielle au Brésil, l'ex-président a remporté le second tour avec 50,9% des voix. Le Téléthon dans un mois, regard dans votre édition sur les maladies neuromusculaires qui touchent en particulier les enfants avec le docteur John Andoni Urtiz-Berea. Les dirigeants arabes se réuniront demain et mercredi en sommet en Algérie, le 31e sommet de la Ligue arabe. Ce sera le premier en 3 ans. Cette réunion internationale sera notamment consacrée aux crises au Moyen-Orient, cela après que l'Algérie a réuni les factions palestiniennes afin de signer un accord de réconciliation. C'était le 13 octobre dernier. Le Premier ministre algérien assure que la réunion arabe sera l'occasion de réaffirmer le soutien à la cause palestinienne en tant que cause arabe centrale, en mettant l'accent sur la position arabe commune représentée par l'initiative de paix arabe qui, souligne-t-il, est le cadre garantissant la protection des droits légitimes du peuple palestinien, selon ses mots. Ce sommet à Alger débutera le jour de l'anniversaire du début de la guerre d'Algérie il y a 68 ans. La déclaration du 1er novembre 1954 était le premier appel adressé par le Front de Libération Nationale au peuple algérien. Le texte exigeait la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. L'Algérie se soulevait contre la puissance coloniale française. Une guerre qui durera 8 ans et aboutira à l'indépendance de l'Algérie. Le terme « guerre » n'a pas été utilisé officiellement. Il faudra attendre le 18 octobre 1999 pour voir la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie par l'Assemblée nationale française. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était Tramor Kemener pour le livre « Vivre en Algérie » du 19e au 20e siècle aux éditions Nouveau Monde, ouvrage coédité par le ministère des Armées et l'ECPAD. Le livre comporte des photographies inédites qui racontent la colonisation. Tramor Kemener.
Les gens, quand ils arrivent, en fait, on leur propose aussi des terres. Voilà, ils ont un lopin de terre et ils vont aller sur ce lopin de terre. Les terres qui ont été spoliées, ce sont beaucoup des terres collectives, des terres de tribus. À partir du 19e siècle, tout de suite, en fait, même, ce sont des questions, évidemment, qui posent problème. La population algérienne ne l'accepte pas, évidemment. Et dès cette période-là, en fait, il y a aussi des razzias qui se passent, que ne peuvent pas comprendre, quelque part, aussi, certaines populations françaises et européennes, parce que pour eux, en fait, ils sont dans leur bon droit. Cela leur appartient, cela leur a été octroyé par l'État français, et donc, du coup, ils sont à leur place. Mais voilà, cela n'est pas accepté. On a des résistances, déjà, qui se font jour aussi du côté des Algériens, et qui vont amener aussi, parfois, certains Européens à quitter, finalement, assez rapidement le bled algérien en tant que tel, pour aller plutôt dans les villes, parce que dans les campagnes, c'est difficile.
Alors, vous écrivez que progressivement, avec l'arrivée croissante des colons provenant de toute l'Europe, les villes algériennes se transforment, des villages sont créés de toutes pièces. Alors d'abord, on s'aperçoit que les colons n'étaient pas que français. Et puis l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi ressemblaient ces villes et ces villages qui étaient finalement des localités françaises, mais en Algérie ?
Oui, complètement. Alors déjà, on a des créations de ce qu'on appelle des villages de colonisation. Des villages de colonisation, ce sont des villages qui sont créés de toutes pièces. Voilà, parfois, ça va être des excroissances aussi de villages préexistants, mais souvent, ce sont des villages qui sont créés de toutes pièces. Et le modèle, en fait, c'est un modèle de village français. Donc, on va avoir au milieu de quartiers européens, de quartiers français, avec des maisons de style français, on va avoir l'église au milieu du village, avec la place également, là, avec la mairie en tant que telle. Et donc, ce sont même des bâtiments qui sont typiques de la Troisième République, fin 19e, début 20e siècle. Donc on est vraiment dans un calque quelque part. On voit d'ailleurs certaines images aussi qui datent de la période de la guerre d'Algérie, où on voit par exemple des Français, Français d'Algérie, qui jouent à la pétanque sur la place de l'église. Donc la photo montre bien cela et met en valeur cela aussi, parce qu'évidemment, il s'agit de montrer dans le cadre de cette guerre qu'on est bien dans une Algérie française. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est bien présent. Mais voilà, c'est évidemment posé en quelque sorte dans un cadre qui est complètement autre, à savoir le cadre algérien.
Une Algérie française avec des colons qui viennent de toute l'Europe.
Ah, avec des colons qui viennent de toute l'Europe, tout à fait, oui. Puisque vers 1880, on a même davantage en fait, d'Européens que de Français. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi sur le droit du sol également en 1889, pour créer en fait, davantage de Français en une génération. Les enfants en fait, d'étrangers européens nés sur le sol français deviennent Français. Et donc c'est comme ça qu'en une génération, à la fin du 19e siècle, on a davantage de Français qui sont présents sur le sol français et en l'occurrence algérien en tant que tel. Et au fur et à mesure, on a une intégration de plus en plus forte de ces différentes populations qui sont d'origine espagnole, italienne, parfois suisse, allemande aussi. Vraiment, ce sont des personnes qui proviennent de toute l'Europe en tant que telles.
Alors, dans le chapitre intitulé « Tensions coloniales », vous avez publié la photographie d'un tribunal musulman. Et puis, une page plus loin, on voit un petit cireur de chaussures. Et pour vous, c'est l'un des symboles de la discrimination coloniale.
Oui, tout à fait. Déjà, en fait, un enfant qui travaille, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et en fait, les cireurs de chaussures... Pour beaucoup, en fait, ce sont des gamins des rues, en fait. Donc, on parle aujourd'hui encore, ou on en parlait il y a peu de temps, des enfants de Bogota ou d'autres villes qui sont dans les rues. Là, c'est le cas aussi. Ils sont orphelins et ils se débrouillent par eux-mêmes, pour beaucoup, en fait, à cirer les chaussures. Alors, les cirer les chaussures, ça peut être des Algériens comme des Français. Mais on a ici aussi des images fortes, évidemment, d'enfants des rues qui cirent des chaussures des Français et des Européens d'Algérie. Donc on voit bien cette différence sociale très importante présente. Et d'ailleurs, ça a été aussi un des moments emblématiques en fait, à l'arrivée du pouvoir d'Ahmed Ben Bella à l'indépendance. Une des premières mesures a été justement de ramasser en quelque sorte les enfants des rues, d'interdire aussi le fait qu'ils travaillent et de les mettre à l'école pour se former.
Tramor Kemner, il y a un passage important de ce livre, c'est lorsque vous publiez une photographie où on voit des miliciens armés de fusils qui sourient. Et il faut vraiment qu'il y ait un historien pour nous expliquer la photographie, parce qu'on pourrait se dire que ce sont voilà, des gens armés qui vont peut-être à la chasse, alors qu'en fait ce sont des gens qui ont participé au massacre de Guelma en 1945.
Oui, j'ai cherché aussi à évoquer les événements de toute cette Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie, sans forcément montrer les combats en tant que tels, mais plutôt l'arrière-cour, quelque part, hein, de ce que l'on ne voit habituellement pas, mais qui est bien présent. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est la répression terrible de mai-juin 1945, qui conduit à ce qu'il y ait plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'Algériens qui soient tués, après une manifestation dans laquelle il y a eu des émeutes. Cette répression-là, peut-être 18 000, 19 000 morts, a été quelque chose de terrible. Et là, effectivement, on voit une image qui avait déjà été celle-ci utilisée par Jean-Pierre Perroulou en particulier, donc un autre historien, qui avait publié sa thèse justement sur ces massacres de mai-juin 1945 à Guelma. Et on voit en effet... trois personnes en train de marcher, souriantes, avec des armes. On pourrait croire effectivement à peut-être une chasse, des choses comme ça, alors que évidemment ce n'est pas le cas. D'autres images évoquent aussi cette répression dans le chapitre que je lui ai consacré justement. Et cette répression-là est vraiment le prolégomène en quelque sorte du déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954, à 10 ans près quasiment.
Tramor Kemner, auteur de Vivre en Algérie du 19e au 20e siècle aux éditions Nouveau Monde. Il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur votre site internet radioorient.com. Michel Aoun a quitté hier le palais présidentiel à la veille de la fin de son mandat de 6 ans. Il a appelé le Parlement à prendre l'initiative de retirer la désignation du Premier ministre avant de désigner une nouvelle personne et de publier immédiatement les décrets de la formation afin d'éviter le vide. Un appel adressé via un message envoyé par l'intermédiaire du président de la Chambre libanaise. Faute d'accord au Parlement sur le remplaçant de Michel Aoun, une nouvelle vacance à la durée inconnue s'ouvre en pleine crise économique et politique. La victoire de Lula à la présidentielle au Brésil. L'ex-président a remporté le second tour avec 50,9% des voix face au sortant Jair Bolsonaro. Une marge bien plus étroite que ce que prédisaient les sondages. Lula, icône de la gauche, avait quitté le pouvoir il y a 12 ans. Quelques minutes après l'annonce des résultats, le président français a adressé ses félicitations au président élu en évoquant une nouvelle page de l'histoire du Brésil. La Corée du Sud pleure les victimes de la bousculade de Halloween samedi soir dernier. 154 personnes ont été tuées. Une enquête est en cours sur fond de critiques liées à la gestion de la foule le soir du drame. Le président sud-coréen a décrété hier, lors d'une adresse à la nation, un deuil national à effet immédiat en hommage aux victimes. Le Téléthon aura lieu le premier week-end de décembre, l'occasion de faire le point sur les thérapies innovantes en France. Entretien avec John Anthony Urtiz-Berea, médecin spécialiste des maladies neuromusculaires. Il travaille en France dans plusieurs, et également dans plusieurs pays méditerranéens, et notamment au Liban. Le docteur John Anthony Urtiz-Berea.
D'abord, il faut rappeler que ce sont des maladies qui sont invalidantes pour la plupart d'entre elles, qui touchent surtout les enfants, mais également les adultes, et pour lesquelles on se bat déjà depuis plus de 30 ans pour essayer de faire avancer les choses à la fois sur le plan scientifique, ça c'est la découverte des gènes responsables de ces maladies, car elles sont pour la plupart héréditaires, et d'autre part, les moyens d'améliorer le quotidien, la prise en charge des patients sur le plan médical, mais aussi chirurgical. Alors tout ça, effectivement, a fait beaucoup de progrès, entre autres parce qu'il y a le Téléthon et parce qu'il y a eu des financements importants destinés à ces recherches. Et puis tout ça s'est emballé depuis maintenant 5-6 ans avec l'arrivée de nouveaux médicaments qui reposent en grande partie sur ce qu'on appelle la thérapie génique, qui consiste à remplacer les gènes défectueux par des gènes sains, et qui donne des résultats remarquables sur au moins un petit groupe de ces maladies neuromusculaires, particulièrement chez l'enfant.
Il y a pour vous des motifs d'espoir ?
Alors, c'est non seulement de l'espoir, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que déjà actuellement, on peut traiter, à condition de faire les diagnostics très précocement, et de rendre la vie quasiment normale pour un certain nombre de ces enfants. Donc ça, c'est déjà le fruit de toutes les recherches depuis des décennies. Et puis l'espoir, c'est qu'effectivement, on puisse étendre ces thérapies innovantes à beaucoup d'autres de ces maladies neuromusculaires, mais également pour les autres maladies génétiques en général.
Vous parlez de diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'il faut regarder chez un enfant dont on soupçonne éventuellement une maladie neuromusculaire ?
Les signes d'appel sont assez variés, mais en règle générale, chez les petits, en tout cas, chez les petits-enfants, ce qui attire l'attention, c'est quand un enfant qui s'est jusque-là développé normalement devient, en quelques semaines ou quelques mois, très, ce qu'on appelle paralytique, c'est-à-dire qu'il commence à devenir hypotonique, manque de tonus. S'il avait déjà acquis la marche, il est à ce moment-là plus difficile pour lui de marcher, de monter les escaliers. Les médecins généralistes et les pédiatres devraient avoir effectivement l'attention attirée par des petits signes comme ça, qui ensuite les fait orienter vers des spécialistes, donc ce qu'on appelle des neuropédiatres, qui eux-mêmes connaissent bien ces maladies neuromusculaires et font le diagnostic très rapidement.
Et il faut aussi que les parents fassent des tests ADN ?
Alors après, quand on parle de test ADN, on rentre déjà donc dans le monde de la génétique. C'est un peu particulier parce que il faut d'abord faire le diagnostic chez l'enfant, et c'est chez lui qu'on va d'abord faire ces tests génétiques pour confirmer l'origine exacte de la maladie. Et puis ensuite, effectivement, on fait une enquête familiale, c'est-à-dire que on essaie de déterminer si un ou deux des parents sont porteurs de la maladie, mais alors porteurs sains puisqu'ils ne développent pas de symptômes. Et puis ensuite, ça peut être pour le reste de la famille, et notamment quand il y a des frères et sœurs ou des cousins ou des choses comme ça. Et encore plus si c'est dans une famille où il y a des liens de consanguinité, anciens ou plus récents. à ce moment-là, effectivement, il faut tester les gens et tester leur ADN pour cette maladie en particulier.
Quand les gens sont testés de manière positive sur ces maladies, qu'est-ce que vous leur conseillez quand ils veulent avoir un enfant ?
Alors, on leur conseille surtout de voir un généticien clinicien, donc c'est un médecin, c'est son métier, et qui va apprécier, donc au vu des informations qui vont être fournies par la famille. Donc, les tests génétiques s'adressent d'une part à la personne elle-même, quand elle est concernée dans sa famille par une maladie génétique. On peut estimer chez elle le risque de développer ou non la maladie en question. Chez les adultes, c'est relativement exceptionnel. En revanche, on peut estimer pour sa descendance, si elle se marie, qu'elle a des enfants, et d'estimer à chaque fois quel est le risque d'avoir un enfant atteint et de faire un diagnostic prénatal à ce moment-là. Alors, à côté de ça, ce qui se développe de plus en plus maintenant, ce sont les tests donc de dépistage à la naissance d'un certain nombre de maladies. Et actuellement, justement, pour une de ces maladies neuromusculaires, c'est tout nouveau, puisque ça va se mettre en place là, dans quelques mois, à titre expérimental. On pourra déterminer si les enfants, à la naissance, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, sont effectivement à risque de développer cette maladie. On pourra les traiter avant que les symptômes débutent. Et de par l'expérience de nos collègues dans d'autres pays, tout ça aboutit à ce que ces enfants se développent normalement, comme tous les autres enfants.
Qu'en est-il de la prise en charge des personnes atteintes de ces maladies dans le bassin méditerranéen ?
Alors, dans le bassin méditerranéen, alors si on inclut la France, et on a raison de le faire, on est plutôt exemplaire, puisqu'on a des centres de référence, des centres de compétences, des équipes de médecins, de travailleurs sociaux, etc. Tout ça est bien organisé, bien financé. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de trou dans la raquette et ça se passe très très bien. Quand on regarde effectivement le paysage un peu plus de façon un peu plus lointaine, je pense notamment à mes collègues et amis du Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient où je vais souvent, là on se heurte à des difficultés à la fois d'organisation, puisqu'il n'y a pas toujours suffisamment de spécialistes pour faire les diagnostics et suivre ces enfants ou ces adultes, et puis un problème de coût tout simplement pour faire ces tests génétiques, parce que tout ça a bien évidemment des conséquences financières. Et je ne parle pas du Liban où je continue à consulter régulièrement, où là, en revanche, c'est même au niveau de la population elle-même où il y a plus grand-chose. Et effectivement, c'est très, très difficile d'organiser des prises en charge. Mais je connais beaucoup de gens qui s'y attellent encore dans des conditions très, très difficiles. Et ça, c'est plutôt encourageant.
Et donc, il y a une possibilité parfois de faire venir ces enfants en France ?
Alors, c'est une question qui pose problème. Alors, pas uniquement pour les histoires de visa et d'autorisation administrative, mais simplement sur le bénéfice vraiment qu'on peut apporter en faisant venir des enfants. Alors pour des opérations relativement simples, j'allais dire chirurgicales, etc., bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur place, donc il n'y a pas besoin de transférer les enfants. En revanche, quand on bute sur certains diagnostics, ou pour certains traitements très 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 particuliers, ou pour des essais cliniques simplement, c'est-à-dire des études expérimentales, on peut être amené effectivement à faire ces transferts. Mais de façon générale, je préfère, en tout cas personnellement, aller plutôt sur place, former mes collègues et voir les enfants, bien sûr, et des adultes en consultation, et voir avec eux ce qu'on peut faire déjà sur place. Et quand vraiment on arrive dans une impasse, effectivement, d'envisager un transfert.
Le docteur John Andoni Urtiz Berea, il répondait à Loïc Barrière, fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orion, il est midi 18 à midi 30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orion.